Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Michael Peters, président du directeur d'Euronews. Michael Peters, bonjour.
Bonjour.
Euronews a officiellement déménagé dans le quartier de la Confluence après plus de 20 ans d'existence à Écully. En quoi intégrer le désormais célèbre rectangle vert était nécessaire? Ça va vous permettre vraiment d'évoluer?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs dimensions à ce déménagement. La première qui est un petit peu concrète, c'est qu'on avait juste un manque d'espace à Écully. Donc on passe de 4500 mètres à 10 000 mètres carrés. Donc c'est sûr qu'on fait plus que doubler. Je pense que la deuxième dimension, c'était d'apporter un peu de retour sur investissement à tous les politiques qui ont fait venir Euronews à Lyon. Et je pense qu'effectivement, un média se doit d'être visible au cœur de la cité qu'il abrite. Et je pense que là, c'est un peu réussi.
Le chiffre de 600 000 euros est avancé concernant le coût de la soirée d'inauguration du nouveau siège. C'était le 15 octobre. C'est un message que vous envoyez à vos concurrents. Désormais, Euronews a les moyens de ses ambitions?
Non, pas dans ce sens-là. En fait, ce chiffre, comme j'en ai entendu d'autres qui circulent, j'ai entendu 200, 600, 800, 1 million. Enfin. Donc évidemment, c'est des chiffres qu'on va garder pour nous, mais non, je crois qu'il fallait qu'on fasse un événement à la hauteur de l'enjeu. Je pense que c'est comme un mariage, on fait ça qu'une fois dans sa vie. Ouais. Donc je pense que c'était intéressant de montrer aux Lyonnais qui nous sommes et qui nous étions donc, pour cette soirée. Et c'est un événement qui marquait en fait un tournant dans la vie d'Euronews et il ne fallait pas le rater.
Puisqu'on parle d'argent, de moyens, Euronews appartient désormais à l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris. Qu'est-ce qui vous a plu dans son discours et dans ses ambitions?
Pour être tout à fait clair, Euronews n'appartient pas encore tout court à Naguib Sawiris, puisqu'il est propriétaire de 53% des actions. Donc nous avons près de la moitié du capital qui est toujours détenu par nos actionnaires historiques. Donc c'est un attelage privé-public. Naguib est quelqu'un que j'ai rencontré il y a un an, qui a eu un discours de vérité sur Euronews et qui, parmi tous les investisseurs que je recherchais, m'a semblé être celui qui pouvait le plus porter la stratégie que j'avais en tête et qui avait été définie avec les actionnaires publics. Et donc, je suis très, très heureux qu'il soit avec nous désormais.
À l'époque, la presse économique avait évoqué la mise en place de barrières, un droit de veto pour les actionnaires et puis un organe de contrôle de la ligne éditoriale. Vous confirmez toutes ces choses? Elles ont été mises en place?
Oui, absolument. C'était comme je l'ai dit à la conférence de presse jeudi dernier, pour faire venir un monsieur comme monsieur Sawiris, il fallait que je convainque 23 actionnaires publics, c'est qui n'était pas facile. Donc j'ai imaginé effectivement une gouvernance qui en gros repose sur un principe assez simple. Le contrôle éditorial reste aux mains des actionnaires publics et le contrôle économique est plutôt aux mains de Naguib Sawiris, même si dans ce domaine-là, certains vétos existent aussi pour les actionnaires publics.
Alors l'évolution d'Euronews passe désormais par le numérique. Vous avez d'ailleurs un plan de développement qui est baptisé Euronews Next. Vous donnez 300 jours à vos équipes pour repenser le contenu de la chaîne. Ça se passe mieux que le chamboulement que connaît Canal+ avec Vincent Bolloré?
Ouais, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour Canal, hein, donc je vais surtout pas me comparer à eux. Alors nous, on va essayer de faire notre petit bonhomme de chemin dans notre belle ville de Lyon. Effectivement, on doit se réinventer. Je pense que tous les médias et tous nos concurrents se réinventent en ce moment et réinventent leur modèle économique. Je pense qu'on avait besoin d'un apport tel que celui que nous a amené Naguib. Donc ça, c'était important pour nous. Et maintenant, on se donne tous 300 jours. Je vais un tout petit peu aussi me mélanger au travail des équipes puisque je me sens un peu concerné. Et effectivement, c'est un petit peu le pari de savoir est-ce qu'on va nous réussir à bien repenser notre modèle économique pour que ce modèle marche à l'avenir.
En France, l'offre d'information en continu est cannibalisée par BFM TV et iTélé. Ça vous oblige à vous tourner vers d'autres marchés européens ou vous ne baissez pas les bras pour vous imposer dans l'Hexagone?
Oui, alors ça, c'est toujours un peu la question qui est posée. En fait, ce phénomène de chaîne d'information nationale n'est pas présent qu'en France. Il est présent dans tous les pays d'Europe. Nous ne sommes pas une chaîne d'information nationale, donc nous n'avons jamais eu la prétention de venir concurrencer des gens et des médias qui traitent de l'actualité nationale avec un prisme national, en tout cas, parce qu'ils font beaucoup d'international aussi. Nous, notre univers de concurrence n'a pas bougé depuis le début en termes de pure player de télévision, c'est-à-dire CNN, BBC World. Par contre, notre univers de concurrence a explosé avec l'arrivée du digital et l'arrivée de gens comme Slate, comme Vice, comme Politico, comme Huffington Post, qui sont eux de réels concurrents pour nous désormais.
Vous possédez aujourd'hui un service qui vous permet de diffuser dans 13 langues différentes. L'objectif, c'est d'en proposer plus ou à un moment, il faut quand même raison garder?
Non, il ne faut jamais raison garder. En matière de multilinguisme, on est ouvert sur le monde.
Ouais.
Plus sérieusement,
d'un moment, il n'y aura peut-être plus assez de langues aussi en Europe.
Il y en a beaucoup de langues en Europe qu'on ne couvre pas encore. Mais en fait, je pense que le modèle de production tel que nous l'avons aujourd'hui commence effectivement, pour aller dans votre sens, à limiter un petit peu les nouvelles langues, parce qu'on il était basé sur 5 langues au départ, donc le fait d'être à 13, je pense que ce serait dur de peut-être d'en avoir encore une ou deux, mais peut-être dur d'aller au-delà. Maintenant, les choses que j'ai en tête pour News Next devraient permettre du coup d'être assez limité en matière de nouvelles offres linguistiques sur Euronews.
Et potentiellement se tourner vers d'autres continents, renier un peu ce nom réducteur d'Euronews ?
Oui, alors c'est vous qui le dites, réducteur, mais en fait...
Quand même.
Disons que Euronews, c'est l'information du monde avec un ADN européen. Je pense que c'est le cas de France 24 pour la France, de Deutsche Welle pour l'Allemagne et de Russia Today pour la Russie, et que l'univers du coup reste bien le globe et le monde avec cette perspective unique que nous avons. Je pense que Euronews a été à son origine très forte en Europe, et aujourd'hui Euronews devient réellement un outil d'audiovisuel extérieur européen, puisque nous sommes extrêmement fort dans beaucoup de zones, notamment l'Europe de l'Est. Et donc, je pense que Euronews a un petit peu dépassé sa mission première de ce côté-là.
Merci, Michael Peters. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio, en partenariat avec lyonmag.com.